Chapitre 28. Envergure déraisonnable. Karine n'a pas touché à ses vernis depuis une bonne semaine. Elle s'est même coupé les ongles courts. Plus aucun colis dans la boîte aux lettres non plus. Pas de temps à perdre en faisant du shopping sur Internet. Elle redouble d'énergie et ne se plaint plus de la fatigue malgré un sommeil capricieux. Lampe à gaz à la main, elle a entraîné Rémi à poursuivre les fouilles à la nuit tombée. Ils ont cherché ce que pouvaient bien être ces deux cocons blancs suspendus au plafond de la cavité, immortalisés dans la galerie photo du téléphone de Karine. Rémi est décidément trop large d'épaules pour pénétrer dans l'espace et y manier la pelle. Qu'importe, Karine aime l'idée que la suite de l'aventure repose sur elle. Un peu moins depuis qu'ils ont trouvé qui habitait ce genre de cocon de soie. L'araignée des cavernes, longue patte noire, envergure déraisonnable. Karine respire le plus calmement possible et s'efforce de penser au trésor éventuel qu'elle découvrira en grattant le sol avec sa petite pelle, tout en surveillant du coin de l'œil le berceau des affreuses petites bêtes. À la surface, Rémi est assis dans la pénombre. Le temps que met la fouilleuse à remplir chaque seau est de plus en plus long. Il fume, écoute les bruits de la forêt, laisse son regard s'habituer doucement à l'obscurité qui s'installe. Il entend en amont, au milieu des sous-bois, le bruissement des feuilles mortes. Imagine un petit chevreuil ou un merle. Un lièvre, peut-être. Il observe les arbres autour de lui, ombres qui dansent dans le vent léger, tels des chevaliers fantômes qui veillent sur les vieilles pierres et protègent le passé. Il se dit qu'il voit peut-être d'un mauvais œil que de petits humains viennent ainsi le remuer. Rémi tire sur la corde de la poulie accrochée au trépied. Il attrape le seau et verse son contenu sur le tas qui grandit à quelques mètres du chantier. C'est en revenant vers l'escalier qu'il entend s'échapper du sous-sol le bruit cinglant de la pelle sur la roche. Puis de petits sons brefs et identiques. Karine sonde l'étendue de la pierre que son outil vient de percuter. Un creux. Puis une autre pierre rectangulaire. Un autre creux avant une troisième pierre. « C'est étrange !» « C'est pas un mur, mais elles sont parfaitement alignées, » crie-t-elle. « Je vais creuser encore un peu. Il est tard ?»« Il fait nuit. La température est agréable. Continue autant que tu veux. Personne ne nous attend. » Car ils ont eu chaud aujourd'hui, à préparer les derniers packs pour les chèvres, à finaliser la fromagerie, à jardiner. 35 degrés à l'ombre en milieu de journée. La fraîcheur du soir offre un répit aux organismes en surchauffe. Quelques sauts plus tard, Karine s'extirpe de la sombre cavité, les épaules égratignées d'humus, les cheveux collés au front, les mains noires. Sans la moindre gêne, elle enlève la terre accumulée dans le sillon de son décolleté à la lumière de lampe à gaz qui commence à montrer des signes de faiblesse. Le jeune homme la trouve jolie dans l'effort, attirante dans sa détermination. S'il apprécie les femmes dynamiques, il reste intimidé par les plus fortes. Lui, il les préfère fragiles pour leur offrir sa protection. Elle lui lance un sourire séducteur dont il ne sait que faire.
« Tu as dégagé une oreille de Mr. Jones ?» plaisante-t-il pour se donner une contenance.
« Non, mais trois pierres taillées avec une date sur chacune d'elles. 1942, 1944 et 1945. »
Elle cherche son téléphone dans la poche arrière de son pantalon et brandit sous ses yeux la photo de la découverte.
« Étrange. On dirait les pierres qui ornent le seuil des maisons pour indiquer la date de construction. Elles sont profondes ?»«
Aucune idée. Mais je suis épuisé. On poursuivra demain. J'ai besoin d'une douche et je ne veux pas croiser les araignées. Je suis sûr qu'elles sortent à cette heure-ci. »
Un croissant de lune éclaire la minuscule route qui rejoint la maison. Karine sent revenir en elle cette petite flamme de passion qu'elle a toujours entretenue pour l'histoire. Évidemment, ces dates évoquent la guerre. D'expérience, elle sait que les conclusions ne doivent jamais être hâtives. Elle ne connaît pas les faits historiques qui se sont produits dans la région. Elle les imagine, nombreux, comme dans toutes les zones de montagne. L'Alsace était occupée, les Vosges se franchissaient régulièrement. Dès que Rémi a évoqué la bataille de Bruyères racontée par Jean, elle s'est plongée dans la documentation. Elle est même montée sur la crête à vélo pour aller voir les plaques commémoratives, s'imprégner de la géographie, comprendre la dynamique des combats. Mais elle reste dubitative. Qu'est-ce qu'une pierre de seuil ferait enterrer là? Alors trois. Rémi range les outils pendant que Karine se secoue avant d'entrer dans leur logement. Elle se déshabille à l'entrée, ne garde que sa culotte et sa brassière et rejoint la salle de bain à l'étage. Sa pudeur a depuis longtemps perdu la bataille de l'image. Rémi s'arrête un instant auprès de Clémence qui crochette à la lumière de la lampe du salon mansardé à l'étage. Un petit coin qu'elle a investi avec quelques pelotes de laine et des patrons de fleurs et autres pièces variées. Elle lui parle des « granny squares », ces carrés colorés qu'elle aimerait faire en ombre pour se fabriquer une couverture, avec toutes les chutes de laine que Paul lui a apportées le matin même. Une coupelle contenant des framboises du jardin qu'elle est allée cueillir en début de soirée est posée sur la table basse. Elle en mange une de temps en temps, la laisse fondre sur sa langue et sent chaque grain, les croque. Elles sont sucrées et juteuses, mais ne suffiront pas à calmer la faim de Rémi. Il a besoin d'un vrai goûter de nuit pour ne pas se réveiller à 3 heures du matin avec un tigre rugissant dans le ventre. Il lui faut du pain, du beurre, du fromage, des aliments consistants. Il lui faut aussi retourner à la cabane. Il s'y rendra le lendemain à l'aube, quand tout le monde dormira encore.